interview à l'université de Lyon. On est content parce que c'est notre premier événement en présentiel depuis combien de temps?
Un an et demi.
Voilà, depuis un an et demi. Voilà, hein. Donc on a un peu perdu du monde au passage, mais il faut s'y remettre pour trouver les bonnes habitudes. Donc là, c'est le dernier séminaire de la saison en lien avec la boutique des sciences. Hein. Donc la boutique des sciences, c'est donc de la recherche avec des citoyens. Donc là, c'est Hélène qui a organisé tout ça. Donc je voudrais remercier Hélène ce soir pour sa dernière séance parce qu'elle a été tenace. Elle a été jusqu'au bout, elle a tout fait en ligne avec le Québec, l'Afrique, etc. Donc là, elle finit là ce soir à l'UDL. Donc c'était, et tous nos séminaires sont en ligne aussi, hein, si ça vous intéresse. Ils sont tous réécoutables, etc. Donc là, ce soir, Hélène va vous présenter le sujet qui est vraiment intéressant et qui vraiment montre l'intérêt de faire de la recherche avec des citoyens. Et pour du côté de la recherche et pour du côté de la société. Mais là, le sujet s'y prête vraiment très, très bien. Je fais un petit peu de pub en même temps pour ce que l'on fait. Hein. Donc nous, on est les acteurs de la culture scientifique et technique du territoire. On vous donne rendez-vous à Saint-Romain-en-Galles, Vienne, le week-end du 9, 10, 11 juillet. On organise un très gros festival avec tous les chercheurs, des doctorants, etc., qui vont prendre place dans le musée archéologique de Saint-Romain-en-Galles, en écho, hein, en off aussi du festival jazz à Vienne. Donc tout est gratuit, donc on a tout un tas de conférences, il y a un site où il y a tout qui est recensé dessus. Et puis pour ceux qui veulent de la lecture pour cet été, vous avez donc la BD de Policité, et puis vous avez toutes les pop Science Mac, on en a mis à distribution à l'extérieur. Donc il y a plein de thèmes, donc là notre nouveau thème c'est sur le tourisme, il y a des choses sur l'énergie, sur les océans, etc. Voilà, sur ce Hélène, je vous souhaite une bonne soirée, merci à vous d'être venus jusqu'à nous.
Merci.
Merci Florence. Tout à fait, donc, moi c'est Hélène Chauveau, je suis chargée de projet avec ma collègue Armand Bozac qui est là-haut à la boutique des sciences. Donc la boutique des sciences, c'est un dispositif de l'Université de Lyon qui met en lien des associations et des citoyens avec des chercheurs et des étudiants en recherche pour travailler ensemble et co-construire ensemble des réponses à des questions de recherche qui sont soulevées par des collectifs de citoyens. Et donc, à ce titre-là, on a proposé tous les mois, depuis 2 ans quasiment, des séminaires autour de la recherche participative et donc autour de ces méthodologies-là de co-construction pour voir comment les autres font, voilà, comment c'est fait ailleurs sur plein de thématiques différentes, donc notamment le design, les nanotechnologies, les jardins, voilà, donc tout ça est accessible en podcast sur notre site. Et donc ce soir, on est très heureux d'accueillir Policité, qu'on essayait d'inviter depuis longtemps, parce que voilà, ils ont vraiment un projet très intéressant de recherche participative qui est en place depuis plusieurs années, qui porte des fruits vraiment intéressants, et qui est en plus sur un sujet brûlant, mais bon, est-il parfois calme ce sujet, je ne sais pas, voilà, mais particulièrement d'actualité peut-être. Donc on va fonctionner en 3 phases un petit peu. On va d'abord voir qu'est-ce que c'est Policité, qui porte ce projet-là, comment concrètement il s'est monté. Puis on va essayer de voir quel est l'intérêt de la recherche participative et de ces méthodologies-là pour comprendre plus de choses sur cette question des rapports police-population avant Envelin. Et puis en troisième lieu, on verra un petit peu un retour critique aussi, une autocritique de voilà, qu'est-ce qui aussi a pu ne pas fonctionner dans ce projet-là. Qu'est-ce qui a été difficile, parce que voilà, la recherche participative, c'est aussi pas un long fleuve tranquille et c'est toujours difficile à mettre en place, de confronter différentes expériences citoyennes, scientifiques et professionnelles autour d'un même sujet. Donc on va refaire un petit peu de présentation, nous dire un peu qui vous êtes, dans quelle structure vous travaillez, quelle est votre fonction, et puis aussi peut-être quels étaient vos a priori. Par nous dire quels étaient vos a priori sur le monde scientifique, mais aussi sur la police et les quartiers, avant de commencer ce projet. Puisqu'on va voir que ces a priori ont beaucoup évolué au cours du projet.
Eh bien. Je m'appelle donc Samia Ben-Cherifa, je travaille dans un centre social de la banlieue lyonnaise, à Vaux-en-Velin précisément, dans un quartier assez mythique, hein, la Grapinière. C'est un quartier qui a beaucoup fait parler de lui dans les années fin 70, début 80. D'ailleurs, il se dispute la primauté des rodéos à l'époque avec Vénitieux aux Minguettes.
Et les émeutes, évidemment.
Au centre social, je fais de l'ingénierie de projet avec les jeunes. C'est aujourd'hui ma mission principale. Voilà. Est-ce que je continue ou est-ce que...
Peut-être me dire un peu les a priori que tu avais sur le monde scientifique, du coup, que tu connaissais.
Ah oui. Alors, je connaissais les scientifiques parce que donc, je travaille depuis plus de 30 ans à Vaux-en-Velin et que j'en ai vu défiler des masses à Vaux-en-Velin. Parce que c'est vraiment le lieu où ils venaient faire leur recherche. Voilà. Donc, chaque fois que... chaque fois qu'un chercheur venait sur Vaux, ben on lui donnait mes coordonnées parce que j'étais aimable, bienveillante et que voilà, je les accueillais plutôt bien, contrairement à d'autres. Je les accueillais plutôt bien, mais ils me mettaient quand même assez en colère. Du coup, au début, je disais bon, vous êtes gentil, mais non, ça ne nous intéresse pas, j'ai pas le temps. Puis après, je disais écoutez, finalement, ok, je peux vous mettre en relation avec des gens, mais en échange, vous nous donnez quelque chose. Donc, finalement, ils intervenaient sur l'accompagnement à la scolarité. Par exemple, ils donnaient de leur temps. Voilà. Ça s'arrêtait là. Donc, effectivement, j'avais des a priori sur le champ scientifique parce que je me disais, ils sont sacrément culottés. Ils viennent à Vaux, ils font leur beurre. Ils gagnent leur vie grâce à ce qui se passe, en fait, sur ce type de territoire. Et puis, rien n'est rendu à la population. Voilà. Ce qui m'a poussé à leur dire, écoutez, don et contre-don, quoi. OK. Vous en avez besoin pour vos études, mais en échange, donnez quelque chose aux jeunes avec qui, par exemple, je vous mets en contact ou aux habitants de la ville.
Très bien, on voit bien le point de départ. Abdallah, du coup, est-ce que tu peux te présenter aussi ?
Alors, moi, je suis Abdallah Slimani, j'ai 20 ans et j'ai toujours habité à Vaux-en-Velin. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'au supérieur à Vaux-en-Velin. Et par la suite, en fait, moi, j'ai grandi à la Grapinière puisque ma grand-mère y habitait et je fréquentais le centre social de la Grapinière, Georges Lévy. Et c'est là où j'ai connu Samia et qui a été d'ailleurs l'animatrice de ma mère. Et
c'est... Ça, c'était pas la peine de le dire, hein, mais bon, c'est pas grave.
Si.
Et de sa grand-mère.
Non.
Quand même pas. Et c'est comme ça qu'en fait, à partir du centre social... qu'on m'a proposé d'intégrer ce projet. On a la chance, à Vaux-en-Velin, d'avoir des centres sociaux comme celui de la Grapinière, où on propose un large choix de projets, que ce soit de solidarité internationale, de projets associatifs, et là-dessus, c'était un projet assez innovant de recherche-action participative. Et moi, j'ai directement embarqué là-dedans.
Et toi, avant de t'embarquer, justement, quels étaient tes a priori un peu sur le monde scientifique et puis peut-être sur la police aussi
Moi, sur le monde scientifique, j'avais pas forcément un a priori type, mais je partageais un peu le même que Samia sur le fait qu'en fait... Ils venaient faire leur travail d'enquête dans notre ville. C'est un peu un laboratoire. Et du coup, que nous, on puisse en tout cas les aider. Et du coup, on a eu les mêmes attentes que Samia, qui était le don contre don, quoi. Et sur la police, à vrai dire, moi, j'ai grandi dans un environnement où on n'entend pas que du bien de la police. Et du coup, j'avais pas forcément j'avais pas forcément une vision assez améliorative de la police, mais personnellement, comparé à d'autres, moi, j'avais pas trop eu l'occasion de pouvoir la rencontrer assez souvent. Du coup, j'avais pas non plus un avis très, très, très tranché.
Mais t'avais 15 ans quand t'as commencé.
Oui, mais j'avais 15 ans, c'est vrai.
Bon, on va voir un petit peu comment ça a pu évoluer. Anaïk, peut-être te présenter.
Oui, alors moi je m'appelle Anaïk Curen, je travaille dans une école d'ingénieurs qui fait partie de l'Université de Lyon et qui a la particularité d'être sur un campus en banlieue et qui est basé justement à Vaux-en-Velin. Et je pense que ça explique aussi pour partie cette recherche-là parce que depuis la fin des années 70, quand cette école d'ingénieurs elle était rue. Elle était dans le quartier latin à Paris. Et puis, L'idée était que le ministère de l'Équipement, qui était le ministère qui gérait cette école, était très fier de la ville de Vau-en-Velin, comme d'autres villes qu'il avait contribué à construire et à modéliser. Du coup, l'idée, c'était que les cadres de ce ministère soient formés dans ce campus, dans cette école en banlieue. Voilà. Après, le modèle a été un peu remis en cause. Et alors moi, je crois que j'avais aussi des préjugés sur la recherche. Pour moi, la recherche.
Tu es sociologue à la base ?
Oui, je suis sociologue, ouais. Pour moi, la recherche, ça devait se faire confiné. C'était vraiment voilà, le modèle qu'on nous a inculqué de la recherche qui doit être à bonne distance des acteurs sociaux et qui peut avoir une préoccupation de changement social, pour employer un gros mot, mais très, très indirect. On peut contribuer au débat public, on peut parler éventuellement avec des journalistes, faire partager ses résultats, donner de la visibilité à certains problèmes, mais guère plus. Ne pas être en prise avec les problèmes sociaux, parce que sinon, on perd, voilà, on perd sa distance, sa neutralité, etc. Et moi, j'ai passé pas mal de temps au Canada, où ces mondes sociaux, ils sont beaucoup plus imbriqués. La société civile, l'université, et puis l'action publique. Et voilà, j'ai rencontré des collègues qui m'ont fait rêver.
Et du coup, donc, on va peut-être arriver sur qu'est-ce que c'est Policité et comment aussi ça a été lancé, initié. Est-ce que ça a été une initiative de l'ENTPE, du centre social, des deux un petit peu en même temps, des habitants? Voilà, peut-être nous dire, nous présenter en quelques mots le principe et puis comment ça aboutit, quoi.
Bon, en fait, il faut peut-être dire qu'il n'y a aucun plan. Il n'y a aucun plan de départ derrière Policité. Il n'y a aucune méthodo construite. Rien n'a été fait à dessein. Moi, je voulais juste faire une enquête normale, académique, rencontrer des vaudés pour leur poser des questions sur l'expérience des discriminations qu'ils pouvaient rencontrer pour un projet de recherche pour l'Agence nationale de la recherche. Et j'ai rencontré Samia, que je connaissais déjà, et elle m'a vite dit en fait, ça va pas se passer tout à fait comme ça. Parce qu'il faut rendre, aux habitants, il y a ce principe de don contre don que j'ai trouvé très sain, même si ça m'a interpellée. Et j'avoue que j'ai commencé par du soutien scolaire et j'étais vraiment pas douée. Des révisions de bac. Et puis je me suis dit, mais en fait, on pourrait peut-être imaginer autre chose et pourquoi pas une initiation à la recherche. Et là, on a un peu cherché. On a un peu cherché des méthodos, on a un peu cherché des idées à droite à gauche. On n'a rien trouvé de vraiment. Voilà, il n'y a pas de mode d'emploi et du coup, on s'est dit, on va bricoler.
C'était en quelle année ça? Est-ce que
c'était en 2016.
C'était déjà quelque chose qui se faisait beaucoup, pas beaucoup. En sociologie, il y a quand même des traditions de.
En 2016, on en parlait quand même moins qu'aujourd'hui. En tout cas en France.
Si je reviens sur les prémices un peu du projet, en tout cas dans ma position de jeune, c'est que au début le projet a été du coup lancé en recherche action, enfin en recherche, recherche action un peu participative sur le fait, et ça n'a pas forcément été dès le début sur les relations police-population. On a lancé au début, du coup c'était, on appelait ça le projet discrimination. C'était du coup une recherche-action sur les discriminations, sur les preuves des discriminations, sur le fait de subir des discriminations à Vau-en-Velin. Et c'est d'abord par là qu'on a commencé le projet. Et je ne sais pas si ça met un mot à dire.
Tu le dis très bien. Ouais. Continue.
Oui. Non, mais c'est par là qu'on a commencé. Et puis, par la suite, nous, jeunes, on a été formé par du coup les chercheuses de l'ENTPE l'entretien sociologique, à l'enquête sociologique, et on a formulé, on a écrit, rédigé des grilles d'entretien auprès d'habitantes et d'habitants de la ville de Vau-en-Velin notamment, en respectant bien sûr les statistiques INSEE de la ville. Et on est allé, nous, jeunes et travailleurs de rue, chacun et chacune, on est allé recruter dans notre réseau des habitantes, des voisines, des voisins, des jeunes. Et par la suite, on a fait tous ensemble des enquêtes auprès de ces habitants sur les discriminations. Et on s'est rendu compte que d'abord, déjà pas mal d'habitants subissaient ces discriminations-là. Et là où on s'est orienté sur la thématique des relations police-population, c'est, on va dire, une multiplication.
C'est que beaucoup d'entretiens parlaient des relations avec la police.
Il y a eu aussi pas mal d'anecdotes. Et parmi les entretiens, il y a eu pas mal de retours, notamment chez les jeunes, sur les relations police-population. Et c'est à partir de ces retours-là que nous, on a décidé, par la suite, du coup, de s'orienter sur les relations, sur cette thématique-là. Et au début, ça a été toujours, enfin, ça n'a pas été du tout notre plan. C'était vraiment au début les discriminations. Pour dire que cette recherche action participative sur les relations police-population, c'est, ça n'a pas été planifié bien en amont. Quoi.
Le sujet a évolué aussi.
C'est ça.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur comment vous avez travaillé, etc., puisque ça vous a apporté. Mais du coup, concrètement, comment ça a pris forme, comment vous avez financé aussi ce travail-là, institutionnellement, ça a été porté par qui? Parce que c'est vrai que, on peut parler un peu de manière abstraite quoi, de ça, mais c'est intéressant de savoir aussi dans quel cadre, s'il y a eu un cadre, même si je comprends bien que ça a été un peu improvisé, bricolé comme souvent, mais quel cadre quand même a pu permettre ce travail-là?
Eh bien, en fait, le centre social était le porteur du projet. Voilà, c'était l'association qui portait le projet auprès des financeurs. Mais au départ, en fait, on a commencé sans financement. On a commencé avec le financement de la recherche. Moi, j'ai envie de dire, quand on le dit comme ça, on a l'impression des jeunes de Vaux-en-Velin s'intéressent aux questions de discrimination. C'est génial parce qu'en plus, avec les représentations qu'on a, on ne peut pas imaginer d'abord que des adolescents s'intéressent à ces questions et ensuite qu'ils souhaitent aller sur les questions de relations police-population. Et on va vous raconter après les pressions, justement, et comment ça a été compliqué. Donc on ne peut pas imaginer que c'est possible. Et en fait, c'est possible. Ce n'est pas possible dans nos têtes, à nous, professionnels. Donc c'est vraiment nous, les professionnels, finalement, qui, avec nos représentations, imaginons ce qui est possible et pas possible pour les gens. Si cette barrière tombe dans nos têtes, en fait, les jeunes, en l'occurrence, puisque moi, je suis une spécialiste de la jeunesse, je ne travaille qu'avec les jeunes, je démarre des actions avec les adultes, c'est autre chose. Je ne vous cache pas que je préfère largement travailler avec les jeunes. Comment est-ce qu'on s'y est pris? On a organisé des temps de rencontres au centre social. Donc, moi, je mets en place chaque année, en début d'année, j'organise ce que j'appelle un séminaire. Alors tout le monde me dit, mais tu utilises des mots avec les jeunes, mais tu es sûr qu'ils les comprennent, mais à quoi ça sert, ça les perd. Et en fait, comme nous tous, on aime bien ce qui est joli, ce qui dit notre intelligence, ce qui marque la différence avec les représentations qu'on peut avoir généralement d'eux. Donc j'organise un séminaire, je dis que ça s'appelle un séminaire. Ils viennent, ils amènent leurs copains, tous, et on se dit, sur quoi on aimerait travailler cette année? Voilà. Donc pendant quelques temps, ça a été la solidarité internationale. Et puis j'impulse, évidemment, je suis un professionnel, je sais vers quoi il semblerait quand même intéressant d'aller. Donc je propose, puisque nous en avons discuté avec Anaïk, etc., je propose de travailler sur la question des discriminations. Ça marche. Il y a un petit noyau qui dit, ouais, ça nous intéresse. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire exactement? Qu'est-ce qu'on a y gagné? Je dis avec Anaïk, en fait, elle a fait tout un travail à Montréal, au Canada, et on aimerait bien aller voir ce qu'ils font là-bas. Pour des gamins de 14 ans, 15 ans, puisque la plus jeune avait 14 ans,
13
ans, 13 ans même, et le plus âgé avait tout juste 18 ans, c'était quand même le contre-don qu'il fallait aussi présenter, quoi, en fait, hein. Donc on a commencé comme ça à se réunir de manière régulière tous les mercredis après-midi dans une école qui était censée être ouverte sur le territoire, qui en réalité ne l'était plus, puisque les gamins eux-mêmes, le NTPE, puisque les gamins eux-mêmes ne connaissent l'école que par la piscine qu'ils fréquentaient avec leur école. Donc ils n'avaient jamais mis les pieds à l'école, tout comme d'ailleurs les étudiants ne mettent pas les pieds, enfin ne traversent pas Vaux-en-Velin autrement que dans le bus qui les emmène juste devant l'école. Donc là, tous les mercredis après-midi, on avait des réunions de travail. Donc il faut imaginer, ils viennent tous les mercredis après-midi de 14h à 17h pour discuter, négocier, faire avancer le projet, proposer des actions, réfléchir, mettre en place les grilles, etc. Et beaucoup me disaient, mais ils ne vont jamais rester. En fait, projet discrimination s'est passé au projet Canada. Et au bout de la première année, normalement était prévu le séjour, ils nous ont dit, bah, non, on ne va pas faire le séjour maintenant, ce n'est pas possible, on n'est pas encore prêt. Il faut continuer les enquêtes. Donc ils ont eux-mêmes repoussé le séjour. Et puis quand on a commencé vraiment à mettre en place, parce qu'un nous a dit, bah, c'est bien beau de faire des enquêtes et tout, mais il faut qu'on passe à l'action quand même. Et là, on s'est dit, bon, bah, il va falloir des financements. Voilà. Est-ce que vous voulez présenter les financements ?
Oui, oui. Rapidement.
Par exemple, la bande dessinée, ça a été une des premières actions qu'on voulait mettre en place. Et on a été financé par la Fondation Vinci pour la Cité. En fait, on a été beaucoup financé par des fondations privées qui sont des financeurs auxquels on ne pense pas forcément quand on fait de la recherche et qui sont pourtant... C'est des bons alliés pour la recherche participative. Donc il y a eu Vinci pour la Cité qui trouvait que c'était intéressant de raconter cette aventure-là en bande dessinée. Et là, du coup, on a bossé en partenariat avec l'école de dessin Émile Kohl et une équipe de jeunes dessinateurs qui étaient en travail de fin d'études. Bon, là aussi, c'était une rencontre intéressante entre ces jeunes dessinateurs qui n'avaient pas forcément mis les pieds dans des quartiers populaires, et les jeunes qui avaient quelques années de moins, mais bon, ils avaient quand même à peu près le même âge. On a été financés aussi par le CGET, notamment pour le séjour au Canada. Et puis, pour finir sur les fondations privées, on a eu un soutien important, en termes symboliques, de la Fondation de France, ça ouvre des portes aussi, de la Fondation Abbé Pierre, un peu plus tardivement. Mmh. Et un gros soutien, alors donc on n'a pas le droit de faire figurer les logos, etc., mais c'est la Fondation Open Society. Donc c'est une des fondations de George Soros, donc on est financé par, des philanthropes américains. Donc ça oblige aussi à se poser des questions quand même.
Est-ce que oui, justement, est-ce que vous êtes posé des questions politiques
On a beaucoup parlé.
Oui, beaucoup.
Et du coup, qu'est-ce que ça...
On n'a pas fait encore tout ce travail réflexif. Là, il y a beaucoup de travaux qui sortent sur la philanthropie et ça va être assez intéressant de se poser cette question-là. Nous, on s'est surtout aperçu, on a eu des relations très étroites avec Open Society. Ils nous ont invités à plein de séminaires, on a pu voyager, on est allé au Kenya. Bref, ça a été des alliés magnanimes. Mais ils ont aussi apporté une expertise, et surtout on s'est rendu compte que sur à peu près à chaque moment où ça bouge sur les questions de relations police-population et sur les discriminations et violences policières, derrière chaque opération, il y a un soutien de la Fondation Open Society, l'action de classe en ce moment, dont on espère qu'elle va faire bouger des lignes, parce que c'est une plainte collective et que ça a plus de poids qu'une plainte individuelle. Open Society pousse derrière. La première fois qu'on a vraiment pu documenter de manière statistique en France l'existence de discrimination policière, c'est l'enquête de Fabien Jovard et René Lévy. Et c'était avec un protocole et un financement Open Society. C'était la duplication d'une enquête qui avait été faite à Moscou.
Et on a été soutenu, un soutien, j'ai envie de dire, indéfectible, qui nous ont jamais lâché sur n'importe quelle action. Quand, par exemple, au soutien public, à l'appui public, parfois, où là, on doit... il y a beaucoup plus de limites au financement public qu'au financement privé, où là, le financement privé, on nous soutient dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, alors que le financement public, on doit rendre des comptes Du coup, au gouvernement, malheureusement, qui nous finance et pas au peuple qui sont les contribuables. Et là, en tout cas, moi, c'est un avis plutôt personnel. Là, on a trouvé un soutien assez important qui sont les fondations privées et qui, elles, nous aident quoi qu'il arrive et peu importe les épreuves que nous, on va subir par la suite.
Et puis peut-être pour terminer, moi je dirais qu'en fait, dans le champ du travail social, on n'a pas l'habitude, en fait, on n'est pas formé pour solliciter, maintenant un peu plus, hein, mais on n'était pas formé pour solliciter des fondations, on utilisait uniquement les financements publics, et on s'aperçoit qu'en fait, quand on travaille avec, en tout cas pour moi, travailler avec des jeunes, qui sont, on se doit d'être ambitieux, et pour être ambitieux, il faut aussi aller vers des financements autres que publics. Donc je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas travailler dans ce champ si on ne va pas solliciter des financements privés, quoi, de fondations.
Et surtout que le financement public est assez moindre parce qu'il y a des coupes budgétaires parfois, enfin il y a de manque de moyens. Et du coup, avec le financement public seulement, on ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, pour avoir un vrai projet avec mener des actions concrète, on a besoin de financement un peu plus, enfin, des financeurs plus largement.
Ok, bah merci. Je pense que ça soulève déjà peut-être des interrogations. On va prendre une ou deux questions sur cette partie-là de qu'est-ce que c'est l'holicité, par qui c'est porté. Voilà, s'il y a des questions comme ça, un petit peu de compréhension sur cette démarche-là, puis on passera ensuite à voilà un petit peu les résultats et puis l'intérêt de la recherche participative pour ce sujet-là. Donc voilà, s'il y a une ou deux questions, et présentez-vous avant peut-être, voilà, c'est intéressant pour nos intervenants intervenantes de savoir d'où vous parlez. Voilà, je ne vais pas les timider.
On était très clair.
Moi, je m'appelle Louis, donc j'habite à Nézieux. Moi, c'est vrai que ça m'intéresserait de savoir plus sur la conférence de consensus, et aussi du coup sur quoi ça aboutit concrètement, en termes de alors, les propositions, et après évidemment les propositions, elles ne sont pas forcément... Je ne suis pas forcément derrière, mais déjà, voilà, qu'est-ce qui a débouché en termes de proposition?
Le teasing, il a fait de l'effet.
Voilà,
on en parlera après.
La question de madame, et puis comme ça...
Oui, Christelle Morel-Jourdais, je suis à l'Université de Saint-Étienne. Juste pour apprécier un peu l'ampleur du projet, combien de jeunes comme vous,
Très bien.
C'est vrai,
on n'a pas présenté.
Ouais.
Oui, tout à fait. Ouais. La première cohorte, alors en fait, là on est sur la deuxième cohorte. La première cohorte, c'était 15 jeunes qui avaient entre 13 et 18 ans maximum, majoritairement tous collégiens, lycéens. Voilà.
On d'ailleurs. Était tous lycéens sauf une.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour le nombre. Les filles et garçons. Je pense que d'ailleurs la première cohorte c'était à peu près 40% de filles, 60% de garçons. La seconde cohorte, ils sont en cours de formation, parce que ce qu'on vous a pas dit, mais peut-être que c'était après les questions,
oui.
Dans les questions suivantes, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a tout un processus de formation des jeunes qui forment la cohorte pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, pour comprendre le fonctionnement des institutions, pour être en fait capable ensuite de pouvoir discuter, négocier avec des interlocuteurs, voilà, grandir en fait. L'idée de la démarche de projet, c'est nécessairement la question de l'apprentissage, de la connaissance pour une émancipation. Moi, je suis un travailleur, moi, je suis animatrice dans un centre social, je suis responsable d'un public jeune, je fais de l'ingénierie de projet, mais je suis portée, c'est pas mais, et je suis portée par l'idéologie de l'éducation populaire. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment au cœur de la démarche de projet. Si ça ne sert pas à ça, à s'émanciper, alors ça ne sert à rien, quoi. Donc là, on est en formation de la seconde cohorte.
On a commencé à 15 leaders. On a fait notre enquête, du coup, avec 15 jeunes. On a la notion de leader.
Ah oui. Qu'est-ce que c'est un leader? Parce qu'en fait, ils savent.
Ouais. Alors, un leader... Samia a trouvé un très bon terme pour qualifier ces jeunes-là qui s'engagent, par exemple, dans des projets comme celui-ci, de leader. Je crois que ça vient de Solalinski. c'est bien ça.
Hein, ouais, c'est, ça vient de ça, mais il ne nommait pas leader, lui. Ouais. Mais ça vient aussi de la formation que j'avais faite au Canada, à Toronto.
C'est ça, sur le pouvoir d'agir, sur comment on peut interpeller, comment on peut faire travailler du coup les citoyens, les jeunes, sur des thématiques qui nous sont propres et qui nous touchent, et comment on peut justement mener cette recherche participative. Un des éléments qui est très important pour nous jeunes aussi, c'est que, par exemple, on soit considéré dans cette action, parce que bon, malheureusement, nous, à Vemblin, quand on est jeune, on rejette pas forcément une très bonne image, malheureusement, qui est fausse. Hein, les jeunes de Vemblin sont très... on a une image très, péjorative, que ce soit dans les médias ou quoi que ce soit, on reprend chaque fait divers. Et du coup, le fait qu'on participe à une recherche-action participative comme celle-ci, ou encore qu'on nous appelle leader parce qu'on participe et on crée quelque chose, eh ben ça motive et ça donne davantage envie d'y s'engager et de participer davantage, quoi. Et du coup, le terme leader a été utilisé pour qualifier les jeunes qui s'engageaient, quoi. Je pense qu'on
peut-être
va juste attendre parce qu'on va faire un point bien détaillé sur la conférence de consensus.
Bonsoir, Jaffa. Du coup, juste pour revenir sur la notion de leader, c'est un lien avec le principe du community organizing ou pas ?
Oui, totalement.
Absolument.
D'ailleurs, parmi les chercheuses qui sont dans le collectif, entre guillemets, Policité, il y a Hélène Balazar qui, elle, a fait un gros travail sur la démocratie participative et sur community organizing, puisqu'elle a été, je ne sais pas combien d'années, à Londres, et elle a fait sa thèse là-dessus, sur la London Citizen, notamment, sur le community organizing à Londres, comment ça s'organise, et c'est un peu inspiré, justement, de cette méthode-là, sur comment les citoyens peuvent agir sur leur vie quotidienne, sur leur quotidien. Quoi.
Alors après, la limite, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas, on n'avait pas les moyens. Un centre social, ça fonctionne dans un réseau partenarial. Ça fonctionne en lien avec une municipalité, avec la préfecture. Et c'est pas possible sur des questions qui font l'objet d'un déni en France, à savoir l'idée qu'il y aurait des discriminations policières. D'aller sur un registre de confrontation, parce que sinon, en tout cas, c'est pas possible quand on est un centre social. Du coup, il y avait une partie de l'appareillage du community organizing, il y avait un peu l'horizon de former des gens, de les émanciper. Il y avait pas la possibilité, et puis on en a même jamais rêvé, de faire des campagnes.
Non.
Qui vise à obtenir des petites victoires, c'était pas l'objectif, non. Et ça aurait pas été pragmatique du tout, quoi.
Alors, c'est une bonne transition. Peut-être on prendra d'autres questions après. Enfin, on va passer à la présentation vraiment de la recherche. Et puis, je suis désolée de frustrer tout le monde. Mais, du coup, c'est une bonne transition parce que l'objectif c'était de faire cette recherche participative et de mieux comprendre les rapports police-population. Est-ce que peut-être chacune, vous pouvez nous dire ce que votre champ de spécialité, donc les savoirs professionnels, les savoirs citoyens et puis les savoirs scientifiques, qu'est-ce que chacun ces types de savoirs-là, vous pensez qu'ils apportent à la connaissance des rapports police-population et du coup, qu'est-ce que vous avez quelque part pu apporter au pot commun de ce travail collectif qui a permis de comprendre des choses que vous n'auriez pas pu comprendre peut-être chacun dans votre coin avec la socio d'un côté, l'expérience citoyenne et puis l'expérience professionnelle. Comment tout ça a pu se mêler et dialoguer
Moi, si je peux me permettre, on a chacun contribué du coup à un partage des savoirs et puis un partage d'expériences également. J'ai commencé peut-être par... par la mienne, allez. Je voulais en fait revenir un peu reformuler, mais sur la mienne, d'abord le rôle de Samia qui, elle, à travers du coup l'expérience dans le centre social, a pu nous inviter à participer à ce projet-là. Puis par la suite, nous, les jeunes, qui avons été partie prenante de ce projet, on a toutes et tous une expérience de nos quotidiens. Et par la suite, on a également du coup mené ces enquêtes auprès d'habitantes et d'habitants qu'on connaissait et avec qui on savait discuter, on savait parler. Parfois, le langage de chercheurs, chercheuses n'est pas hyper compréhensible pour certains habitants, alors que nous, on pouvait s'exprimer assez facile avec ces habitants-là. Et par la suite, on a été, aussi apporteurs, nous, d'expérience, parce que on a vécu parfois certains comportements, on a vu nos propres yeux ou subi des problèmes par rapport aux relations police-population. Et du coup, nous, jeunes, on a apporté cette force-là. On a apporté du coup l'envie de changer les choses parce que c'est nous qui le subissons, c'est nous qui habitons le quartier, c'est nous qui avons envie vraiment de changer les choses et de vraiment passer à l'action pour que ça s'améliore. Et du coup, voilà en tout cas ce que nous on a apporté.
En fait, vous avez apporté la dimension action parce qu'au début, on était juste sur une recherche avec les pairs, ce qui était déjà bien. Et au bout d'un moment, il y a eu une sorte de constat un peu consolidé sur lequel on va revenir. Et ils m'ont dit, mais maintenant, on fait quoi? On ne peut pas juste produire de la connaissance et puis après, pouf, on se lave les mains. Mmh. Et puis nous, on vit ici, c'est notre quotidien et on a envie de le changer. Et donc cette dimension-là, c'est ce qu'ils ont apporté. Et puis une autre chose aussi importante, c'est... La question des discriminations, elle n'est pas facile à aborder avec les gens. Ça nécessite de rentrer un peu dans l'intimité. Et c'est aussi le type d'expérience sur lesquelles on a du mal à mettre des mots. Ça paraît banal, c'est intériorisé. Pourquoi aller parler de choses aussi futiles, quoi, aussi banal, aussi ancré dans le quotidien, et encore plus quand il s'agit des jeunes et de leur relation avec la police. Et on parle beaucoup, la recherche a bien documenté la question des discriminations, des violences policières, mais ce que les entretiens ont permis de montrer, et c'était lié au fait qu'ils étaient faits avec d'autres jeunes, c'était que il y a tout un espèce de un peu on pourrait dire la partie immergé de l'iceberg, qui est faite de petites tensions du quotidien, de micro-agressions qui relèvent pas forcément du code de déontologie, des choses pas très visibles. Alors le tutoiement, oui, parce que là c'est contraire au code de déontologie, mais des échanges de regards, des jeux de provocation un peu rituels et qui sont difficiles à dire en fait. Et du coup le rôle des jeunes, ça a été d'aller chercher d'autres jeunes dont ils avaient entendu parler de l'expérience et de leur dire si en fait il y a quelqu'un là, on va faire un entretien ensemble, il y a quelqu'un qui vient t'écouter parce que ce que tu as à dire est important et non, ça n'est pas dans l'ordre des choses, même si c'est ton quotidien. Et voilà, cette partie immergée de l'iceberg, ça a été une plus-value de la recherche, des entretiens menés avec les jeunes. Je pense pas que j'aurais vu tout ça toute seule. Enfin, j'en suis même intimement persuadée.
Oui, ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est vraiment que la sociologie, là, elle permet de nommer et de, voilà, d'avoir une méthodologie d'approcher les choses qui sinon restent invisibles, quoi. Et du coup, d'un point de vue professionnel, voilà, quel savoir-faire et savoir-être, et puis sa connaissance concrète, toi, tu as eu l'impression d'apporter sur ce sujet-là?
Alors, je sais pas ce que... Je pense que ce que j'ai pu apporter, c'était d'abord ma connaissance du public jeune, de comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce qu'on peut motiver des jeunes, comment est-ce qu'on peut les inscrire dans une démarche de projet à long terme, parce que finalement... Ces jeunes ont été formés comme leaders. Aujourd'hui, ce sont les leaders qui encadrent la seconde cohorte. Donc, j'ai peut-être contribué à permettre cette inscription sur le long terme d'un public jeune qu'on n'attend pas forcément, justement, dans un engagement aussi long. Voilà, je dirais que je serais peut-être... Enfin, ce que j'ai apporté, c'est plutôt un peu ce que Solaninsky dit, l'organisateur, quoi. Voilà. Pour permettre la rencontre, pour permettre d'avancer sur des enjeux, en fait, qui sont, pour nous, on appelle ça des enjeux, pour eux, c'est de l'ordre vraiment du quotidien, mais de tous les jours, vraiment. D'ailleurs, j'ai souvenir qu'une fois, on s'était dit, bon, on va peut-être arrêter, c'est bon, bon, c'est pas simple, ça, c'est pas facile d'avancer sur ce sujet-là, etc. Et en fait, ils nous ont dit, bah, si vous voulez arrêter, vous pouvez arrêter, mais nous, ça nous concerne directement, on n'arrêtera pas. Hein. Avec ou sans vous, on continuera, quoi.
Les jeunes qui nous disaient ça.
C'est les jeunes qui nous disaient ça, ouais. Ce qu'on a, peut-être aussi quelque chose qui a été... mais on y reviendra dans ce qui était compliqué.
Suspense. Ouais, puisqu'on entend... Enfin, du coup, peut-être passer aux résultats, brièvement. Voilà, quels grands principaux résultats en termes de recherche, en termes d'action aussi sur le terrain, puisque je crois que voilà, vous avez pu aussi rencontrer, voilà, aller par exemple dans des écoles de police, voilà, c'est un résultat intéressant. Et puis les résultats aussi pour vous, intimes, voilà, qu'est-ce que c'est venu chambouler dans vos vies, dans vos pratiques de la recherche, dans votre citoyenneté, dans vos pratiques professionnelles.
Alors, pour la recherche, on a du coup fait ce travail d'abord d'enquête sur... au début, les preuves des discriminations. Mais on a vu du coup qu'il y avait une grosse partie des jeunes panélistes, du coup des jeunes sondés, qui ont fait part d'une mauvaise expérience, surtout avec la police, qui ont été acteurs ou simplement observateurs, et ou même certains et certaines ont... simplement parfois des préjugés ou parfois leur environnement on va dire inculque une manière de penser un peu naturelle, puisque on entend parler parfois du coup de en mal ou en bien, parfois, mais plutôt en mal, des relations police-population. Et les expériences, ils ont montré qu'il y avait des relations tendues entre police et habitants, et du coup parmi tous les âges, parce que après, par la suite, on a refait des entretiens avec des habitantes et habitants de tout âge, qui eux aussi ont parfois d'une expérience avec la police, peu importe comment, mais beaucoup critiquent un peu en tout cas cette relation là puisque parfois sur les personnes âgées, on a eu une autre forme de critique, c'est-à-dire que, on va donner un exemple, mais quand on les appelle, ils viennent pas. Chez les jeunes, c'est ils sont trop là, ils sont trop présents, ils cherchent. Enfin, c'est un peu ces discours-là. Et du coup, nous, on a par la suite essayé de faire des séjours d'études. Avant, on a organisé un spectacle débat sur les discriminations, mais on est revenu un peu là-dessus. Mais après, on a décidé de faire des séjours d'études pour voir comment ça se passait justement dans d'autres pays, dans d'autres villes notamment. Ça a été Londres et Montréal. Et on va dire que là, on a été très, très, très surpris, en tout cas, nous jeunes. Après, je pense que Anaïs connaissait un peu, mais nous jeunes, on a été très, très, très surpris. Parce qu'on a vu quelque chose de très différent. Moi, je vais parler un peu de Montréal, où là, on a découvert un autre monde. On a vu à quel point l'État, en tout cas, là-bas, c'est d'abord une police différente, et des polices municipales. Et du coup, on a vu à quel point la ville de Montréal a investi ce champ-là des relations police-population, et comment ils font tous les jours pour entretenir le dialogue entre habitantes et forces de l'ordre. Du coup, on a visité des commissariats de quartier à Montréal-Nord. Montréal-Nord, c'est un peu semblables à Vaux-en-Velin. Ils ont eux aussi eu l'expérience d'émeutes. Après la mort d'un jeune, ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui a été très différent comparé à la France, c'est que après cette épreuve, après ces émeutes-là, Montréal s'est remise en question, la ville en tout cas, et les forces de l'ordre sont remises en question. On dit comment on peut maintenant désormais entretenir le dialogue et travailler à ce que ça soit apaisé. Et du coup, il y a eu des pratiques et des méthodes totalement différentes. D'abord, juste sur la formation des policiers, c'est une formation, d'abord ils sont formés bac plus 4, je crois, ou bac plus 5, en université, avec du semi-pratique et du semi-théorique, il me semble. Et du coup, en fait, c'est une formation qui est beaucoup plus appuyée, mais qui par la suite permet aussi, bien sûr, c'est sûr que la formation permet d'avoir des meilleurs revenus, des meilleures conditions de travail. Et ils ont des méthodes totalement différentes puisqu'ils étudient la criminologie. On est allé à l'Université de Montréal. On a vu une criminologue, si c'est bien ça. Ils étudient la criminologie, ils étudient les comportements, ils étudient comment en fait on peut aller à la rencontre de ces habitants et analyser les situations qu'ils peuvent subir. Et ce qui est totalement différent parce qu'en France, les policiers sont formés sur parfois 6, 8, 8 mois, quoi. Ce qui est très, très, très peu. Et on a vu plein d'autres méthodes telles que le commissaire nous avait présenté. Par exemple, j'essaie de faire vite. Une fois par mois, le commissaire invite les étudiants et les élèves à manger au restaurant. En l'occurrence, c'était le McDo. Mais il invite les jeunes du quartier au McDo, un temps festif, convivial, passé avec les policiers. Ils organisent une fois par an un grand tournoi sportif dans le quartier, avec un barbecue, etc., avec tous les habitantes et habitants. Il y a des postes de police dédiés dans les commissariats à Montréal, ils appellent ça les agents socio-communautaires, où leur seul rôle, leur mission, c'est vraiment d'entretenir le dialogue entre société civile, entre associations, habitants, jeunes, commerçants et commissariats. Et ils organisent une fois par semaine, avec tous ces acteurs-là, une rencontre au sein du commissariat. Et nous, on a été un peu très agréablement surpris. Et on a même fait des visites au sein des quartiers. On a discuté du coup avec des jeunes de Montréal. Et on voit qu'ils ont une vision assez différente de la police que la nôtre, que celle qui est en France en tout cas. Et quand on est rentré de ces séjours d'études, on s'est dit maintenant le travail de recherche est accompli. On a vu ce qu'on pouvait faire et on a vu ce qui se faisait à l'étranger. Comment on peut réussir à d'abord construire un constat et puis par la suite réfléchir à des actions afin d'améliorer et peut-être importer des idées, en tout cas qu'on a pu voir dans d'autres villes, quoi. En tout cas sur les séjours d'études, c'est ça.
Ok, merci beaucoup. Et peut-être du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de justement ces actions que vous avez peut-être pu mettre en place?
Donc on a mis en place, en fait on a essayé plein de trucs. On ne savait pas au départ exactement ce qui allait marcher, ce qui n'allait pas marcher, ce qu'on pouvait faire. On tentait au fur et à mesure. Donc, on a mis en place des soirées débats, par exemple, entre policiers et jeunes, avec un principe, c'était un nombre égal de policiers et de jeunes. Donc, s'ils étaient trois policiers, il fallait qu'il y ait trois jeunes. S'il y avait six policiers, il fallait qu'il y ait six jeunes. Il y avait beaucoup d'a priori, nous aussi, les jeunes. Et finalement, quand le dialogue a démarré, ça s'est super passé. Donc, ça n'a pas été facile de créer ces temps de débat, ces espaces de dialogue qui sont malgré tout nécessaires. Hein. Pas facile, d'abord parce que les policiers ont des représentations sur les jeunes et que la commissaire qui, à l'époque, Sidonie Laroche, était vraiment, elle y croyait, elle avait beaucoup de mal à mobiliser quand même ses équipes. De la même façon, du côté jeune, c'était compliqué en fait de mobiliser des jeunes parce que d'abord, nous, Travailler avec la police, c'était un vrai problème. Donc, même pour moi en tant que professionnelle, hein, pourquoi est-ce que tu travailles avec la police? Pourquoi est-ce que tu embarques des jeunes dans ces histoires-là? Puis les jeunes ont subi quand même pas mal de pression, enfin, beaucoup de pression, hein, de la part d'autres jeunes. Donc, c'était pas simple d'accepter d'aller dialoguer avec des policiers. Donc, ensuite, les séjours d'études, des actions qu'on a mis.
Oui. Moi, je vais juste revenir sur cette action-là. Moi, le résultat que j'en tire, c'est que on a vraiment vu qu'à la fin de ces soirées, par exemple, c'était vraiment 2 heures de débat non-stop. Et par la suite, on en a fait plusieurs. Du coup, la première, c'était très compliqué de recruter de deux côtés. Mais après, les suivantes, ça a été un peu plus facile. Parce que les policiers, d'abord, ils se passaient le mot en disant que ben, c'est sympa de discuter avec des jeunes. Et ben, les jeunes, pareil. Et puis, ben, à la deuxième et à la troisième, on avait plus de policiers de terrain et des personnes qui étaient plus anciens sur le territoire. Et on avait plus de jeunes également. Et du coup, là, on a vu un résultat. Certes, on ne peut pas toucher les jeunes de la ville de Vanvelin à travers des soirées débat. Mais on a vu un résultat assez concret là-dessus.
Voilà, oui. Après, parce qu'on va peut-être passer rapidement sur les actions du théâtre forum. Ça nous semblait être vraiment un outil intéressant. D'ailleurs, on a vu ce que ça avait donné à Montréal, puisqu'ils utilisaient le théâtre forum à Montréal Nord, là, dans ce centre communautaire. J'ai plus souvenir de toutes les actions, mais en fait, c'était dans la démarche de projet, il faut absolument, quand on travaille avec des jeunes, il faut que ce soit rythmé par du travail de fond, mais de l'action aussi. Donc, on a organisé des séminaires, par exemple. Des séminaires, en fait, qui leur permettaient d'appréhender largement ces questions-là, ces enjeux-là, des séminaires de formation. Donc, on allait, mais on se faisait plaisir, hein, parce qu'il y avait à la fois du sport, à la fois des activités, et puis des temps, vraiment, que les leaders avaient préparés en amont de connaissances apportées aux jeunes, entre autres à la nouvelle cohorte, récemment.
Et ces séminaires et ces réunions, on pourrait se dire... Enfin, je sais pas, nous, adultes, on trouve ça un peu barbant quand c'est répétitif ou trop long. Mais les jeunes, ils en étaient vraiment... ils étaient vraiment demandeurs. Et là, on est en train de faire des entretiens avec les jeunes de la première cohorte sur comment ils ont vécu les choses de l'intérieur, qu'est-ce que ça a apporté, quelles sont les frustrations et tout ça. Et il y avait un des jeunes qui nous disait... Mais moi, je voyais Samia organiser des réunions et des séminaires avec des jeunes. Et c'était comme si c'était l'Élysée, quoi. qu'on devenait important du fait d'être convié, d'être avec un vocabulaire et d'être considéré comme des acteurs à part entière.
Peut-être juste, puis on va passer aux questions, d'un point de vue personnel, du coup, comment c'est venu bousculer, notamment, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais notamment Anaïk, sur ta pratique de la recherche, comment c'est venu bousculer, et est-ce que tu as pu aussi utiliser les résultats, je ne sais pas, dans des publics, enfin, collectivement, dans le cadre académique, comment ça a pu aussi être transféré ou pas?
Si, si, oui, on a fait pas mal de publications. Quand c'était possible, on a essayé de les faire ensemble, mais la partie la plus difficile, c'est vraiment l'analyse conjointe. Je pense que c'est un peu le propre de toutes les recherches participatives. On peut faire des entretiens, on peut faire de la valorisation, et puis il y a un peu cette phase un peu solitaire de l'analyse. Mais quand on arrive à la faire partager, après la valorisation, elle est conjointe, commence à bousculer. Moi, je ne conçois plus du tout mon travail de la même manière. Ça m'a bousculé aussi parce que j'ai gagné plein de nouveaux collègues chercheurs, beaucoup plus jeunes que dans mon laboratoire. Et que du coup, ça aide à rester jeune aussi. Ils me font plein de critiques sur le fait que je suis restée coincée dans les années 80. Mais ça aide. Et je pense que c'est pas difficile de rentrer dans la recherche participative, mais par contre c'est dur d'en sortir. Et que pour autant, je pense qu'il y a quand même une attente académique de pouvoir varier un peu les approches. En tout cas, moi, mon credo, mon expérience, c'est que c'est une corde de plus à l'arc des chercheurs, que c'est une méthode de recherche et qui gagne à être banalisée, qui
gagne du coup à être... À être enseigné, à être partagé avec les étudiants. Il ne faut pas que ça soit qu'il y ait une étiquette militante, parce qu'il y a une vraie plus-value pour produire des connaissances et pour les faire circuler ensuite, que ce soit dans le monde scientifique ou en dehors. En tout cas, dans le monde scientifique, il n'y a aucun problème pour valoriser des résultats qui sont produits avec une recherche participative. Ce qu'on pouvait craindre un peu au départ. Et absolument pas. Enfin, bon, je me suis rendu compte que plein de collègues avec qui je travaillais depuis longtemps faisaient un peu de la recherche participative, un peu du braconnage, un peu bricolé, sans le dire, l'espèce de un peu le petit supplément d'âme pour se dire qu'on voilà, on n'a pas travaillé sur, par exemple, sur l'école sans laisser une petite trace ou faire. Voilà. Donc, c'était sur un mode, en tout cas, complètement clandestin. Et du coup, on s'est retrouvé à parler de ça et on a fait un livre qui raconte ces récits de clandestinité et de coming out.
Peut-être Samia, par rapport à ce que tu disais au tout début, voilà, tes a priori sur le monde de la recherche, est-ce que tu as changé de point de vue? Est-ce que tu as juste changé de point de vue sur les chercheurs que tu connais? Ou est-ce que ça t'a aussi fait évoluer sur l'apport de la sociologie ou des sciences en général pour ton travail?
Moi, vraiment, je n'imagine pas. J'enseigne à Lyon, au département de l'UFR Staps pour des DOST, animation. C'est Lyon 1, voilà, je cherchais à Lyon 1. Et en fait, j'aimerais vraiment que soit intégré dans les formations. D'animateurs, justement, l'idée de la nécessité de travailler avec des chercheurs quand on est sur de la démarche de projet, vraiment. Moi, en fait, cette expérience-là de recherche action participative me fait dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le cadre du travail social, on devrait faire avec les chercheurs, pour plusieurs raisons, mais trois en particulier. La première, c'est que ça aide vraiment, vraiment à prendre de la distance par rapport à son travail. C'est-à-dire qu'on est tellement le nez dans le guidon, on partage tellement les préoccupations des gens qu'en réalité, parfois même, elles peuvent se confondre. Elles peuvent se confondre, ces préoccupations, avec les nôtres, quoi. Du coup, le travail de la recherche permet d'être dans une sorte de distanciation qui nous permet de voir les problématiques sous d'autres angles. La seconde, c'est que ça légitime le travail de nous en qualité de professionnels. Et ça ne me gêne pas de le dire vraiment haut et fort, c'est-à-dire que d'associer la recherche au travail que nous faisons permet d'être considéré par les pouvoirs publics autrement. Et finalement, ce qu'on nous reproche, quand je dis qu'il y a un problème là-dessus, il faut y aller, eh bien si c'est moi uniquement qui le dis, ça n'a pas du tout le même impact que si je suis associé à un chercheur et que le chercheur, avec le public concerné, le dit haut et fort. C'est vraiment totalement différent, et du coup ça permet de légitimer le travail que nous faisons, nous, parce que c'est un vrai travail de fourmi. Et je sais pas dans quel quels sont les lieux où ce travail est clairement annoncé, légitime, véritablement évalué. Enfin, l'évaluation que nous faisons, ce sont surtout des évaluations en réalité quantitatives. Et c'est bien dommage, d'ailleurs. Hein. Et puis, la troisième chose importante, c'est en termes de formation. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vécu 5 années de formation continue. Aujourd'hui, j'ai mis en place un projet qui s'appelle le 120 de la jeunesse, sur la question du non-recours des jeunes. Eh bien, quand j'ai échangé avec Anaïk, je lui ai dit, mais... On ne pourrait pas faire une recherche. Alors, comme si c'était simple en même temps. Hein. Elle m'a vite remis les idées en place en disant, c'est pas comme ça, hein, ça ne se fait pas comme ça. Mais tout de suite, j'ai dit, mais on pourrait faire une recherche action participative sur la question du non-recours. Est-ce que tu connais des gens? Enfin, il y a vraiment... c'est devenu presque indispensable à mon travail. C'est devenu d'ailleurs indispensable à mon travail. Et du coup, dans le cadre du 120 de la jeunesse... elle m'a mis en lien avec un autre chercheur qui a travaillé sur cette question-là, qui a rédigé une thèse, voilà. Donc, pour au moins ces trois raisons, et puis peut-être une dernière raison, c'est la question du regard porté sur la jeunesse. C'est-à-dire que, bon, peut-être alors, vous allez me dire peut-être que c'est une question aussi de personne. Je crois pas, parce que tous les gens que j'ai rencontrés, et rencontrés dans le cadre d'intérêts communs, en fait, hein, mais clairement énoncés dès le départ en plus, hein, c'est-à-dire, on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression de me faire bananer, quoi. Et je ne suis pas en train de les bananer. C'est-à-dire, vous avez, vous, chercheurs, un intérêt à venir sur le territoire, à faire des trucs. Moi, j'ai un intérêt dans le cadre de mon travail. Les jeunes exposent leur intérêt. Ils ont aussi un intérêt. Et ces intérêts croisés, ça produit quelque chose d'extraordinaire. La question du réseau et d'être regardé par des gens qui, dans leur représentation, sont des gens qui détiennent le savoir, comme des gens intelligents. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir d'une anecdote, c'est une fille de 25 ans qui a vécu un entretien, qui a été faire un entretien donc, avec deux leaders et Anaïk. En sortant de son entretien, elle m'appelle. Bon, c'est un profil assez, assez difficile, assez, voilà, mais c'est une chouette, vraiment chouette fille. Elle m'appelle, elle me dit, oh, je viens de sortir d'une réunion, là, donc c'est l'entretien. Elle me dit, oh là là, mais tu sais ce qu'elle m'a dit, la dame, là ? Elle m'a dit que ce que j'avais dit, c'était super bien. Tu te rends compte ? Ben ouais, je dis des choses super bien. Donc, moi, je me dis, mais c'est dingue quand même. Quand on a été abîmé pendant longtemps dans le cadre de sa scolarité, quand on a vécu des blessures dans l'estime de soi, enfin, c'est absolument génial. Et puis, le réseau, c'est parce qu'il y a des tas de jeunes, c'est ça aussi le don et contre-don, qui ont pu bénéficier du réseau des chercheurs pour des stages, pour être accompagné dans le cadre de Parcoursup, donc par le biais d'autres étudiants, pour des alternances. Enfin, c'est vraiment gagnant-gagnant. J'aime pas bien la formule, mais je ne sais pas comment dire autrement.
Alors justement, on a un membre du tas de jeunes. du coup, comment toi, ça t'a fait évoluer ? Tu es aujourd'hui un citoyen super engagé. Voilà, tu peux peut-être nous en parler aussi de tes engagements actuels. Mais voilà, comment ça a fait évoluer
Bah, je pense que d'abord, on partage, je parle en mon nom, mais tu parles au nom des jeunes aussi, on partage tous les l'avantage personnel que Samia vient d'exposer et on le partage nous totalement. En fait, on a totalement changé notre manière de penser. Et enfin, moi personnellement, et comme d'autres jeunes, enfin, quand on rentre à 15 ans dans un projet comme celui-ci, etc., moi j'étais pas forcément très sérieux au début. et en fait, par la suite, ça nous a forgé, on va dire, une maturité qu'on n'avait pas forcément, hein, parce qu'à 15 ans, on n'est pas forcément très très mature, mais ça nous a forgé une maturité. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment donné goût à l'engagement. S'engager où on voit vraiment qu'on est considéré, alors que ça n'a jamais vraiment été le cas auparavant, hein, nous. On n'a jamais eu l'occasion de pouvoir discuter avec des chercheurs, des chercheuses. On n'a jamais eu l'occasion de pouvoir parler face à un public, à discuter dans des colloques, à pouvoir montrer, comme on le fait aujourd'hui, là, notre expérience, etc. Ça, on n'a jamais eu l'occasion de le faire et ça nous a renforcés. Et du coup, on a tous pris goût à l'engagement. Moi, pour le coup, après, j'ai décidé de m'engager dans d'autres projets en parallèle, associatifs. Et par la suite, d'autres ont créé leurs projets, leurs associations. D'autres ont pu reprendre une formation. Moi, pour le coup, et d'autres, et comme d'autres, on a revu nos ambitions scolaires à la hausse. Moi qui, pour le coup, ne pensais pas faire de longues études, après mon expérience et avec mon expérience au sein de Policité, c'est sûr que là, j'ai revu mes priorités. Et vraiment, c'est vraiment de la formation continue. Le fait que nous, lycéens, on débute en seconde, qu'on soit formé d'abord à l'entretien sociologique, qu'on soit formé un peu à la sociologie, aux institutions, à la police nationale, les institutions, le gouvernement, le pouvoir des préfectures, etc., par des chercheurs, par également des journalistes, et qu'on ait aussi, par exemple, des cours de théâtre pour pouvoir apprendre à s'exprimer avec éloquence, etc., ça, c'est vraiment un bonus, mais c'est vraiment quelque chose d'énorme, qu'on a pu acquérir lors de l'expérience de Policité et qu'on a réutilisé par la suite dans nos vies respectives. Quoi. C'est vraiment quelque chose qui nous a accompagnés tout au long et qui nous accompagnera tout au long de notre vie. C'est pour ça qu'on ne veut pas arrêter d'ailleurs. Encore aujourd'hui, on ne veut pas arrêter parce que c'est vraiment été quelque chose de super.
Juste pour l'anecdote, je pense que aussi le fait que tous les entretiens et toutes les réunions se soient faites à l'ENTPE, ça a été quelque chose qui a joué. Ça, je pense que ça démystifie qu'est-ce que c'est un établissement d'enseignement supérieur, parce que c'est une ambiance plutôt assez joyeuse et festive. Et il y avait pas mal de moments, il y avait les campagnes par exemple pour le bureau des élèves. Donc les jeunes, ils voyaient des étudiants qui étaient censés être des pointures,
de travail.
Quoi, qui avaient fait des classes prépa, habillés en canard ou en pingouin. Et ils disaient, mais c'est sympa quand même, en fait.
Ok, ouais, on imagine bien ce que ça peut remuer. On va passer à des questions, puis on verra si on a le temps d'aborder les critiques, les limites.
Oui. Je peux la conférence, juste après on parle de la conférence.
J'ai une question sur la question de la problématique de la discrimination chez les personnes discriminées. C'est-à-dire que ça fait quelques années que je travaille à Vaux-en-Velin, qui est je suis avec des gamins et des ados. Et du coup, c'est une enclave, et en fait, il y a peu de perception de ce qui est l'autre, en fait, de ce qui est l'ailleurs de Vaux-en-Velin. En fait, je suis assez frappé par rapport à toutes les discriminations, mais pas spécifiquement policières. Qu'elle soit dans le rapport à la prison, à l'orientation scolaire ou professionnelle, à l'orientation au travail, à la sexualité, tous ces questionnements-là. En fait, je suis frappé du fait que les populations avec lesquelles je travaille n'ont pas conscience de cette discrimination. À partir du moment où un flic nous tutoie depuis toujours, on ne le conçoit pas comme une discrimination parce qu'on ne sait pas qu'on peut être ouvrier. Et du coup, c'est quelque chose qui me frappe assez. Du coup, vous disiez que ce rapport de discrimination à la police est arrivé assez rapidement. Sur les problématiques de discrimination, mais du coup ça ne me paraît pas si évident. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, je peux dire, en fait, vous avez totalement raison. C'est-à-dire ils ont tellement intégré tout ça que pour eux, c'est la norme. Ce qui pour nous n'est pas la norme, pour eux, c'est la norme. L'intérêt, justement, d'associer des jeunes et les chercheurs, c'est qu'ils vont aller chercher, puisque eux ont été formés, puisque eux ont compris ce qui était, qu'est-ce que c'est une discrimination, un traitement inégalitaire. Ils vont chercher, ils vont pousser lors de l'entretien pour comprendre. Puis leur relation de confiance qu'ils ont, vas-y, tu peux lui dire à elle, t'inquiète pas, tu peux lui raconter. Et c'est ce qui a facilité, effectivement, l'hébergence d'une parole sur quelque chose qui, pour eux, était tout à fait normal, pour quelques-uns d'entre eux en tout cas, parce qu'il y a bien des gens quand même, plutôt les adultes, hein, sur la question de l'orientation scolaire, sur la question par exemple du travail ou du logement, il y a des adultes qui ont dit clairement qu'ils s'étaient sentis humiliés, discriminés, bref, avec tout ce qui va avec. Mais chez les jeunes, en fait, non. D'abord parce qu'eux, ils n'étaient pas confrontés encore aux questions forcément de l'emploi ou aux questions du logement, par exemple, à la question de l'orientation, mais surtout aux relations avec la police. Et ils ont commencé à raconter ça comme d'une anecdote, comme des anecdotes qu'ils racontaient, des choses presque drôles, quoi. Alors qu'en réalité, c'était grave. Et c'est au fur et à mesure, en fait, de la formation que, déjà, la première cohorte prenait conscience aussi de cette question des discriminations, des traitements inégalitaires, de ces relations avec la police qui ne sont pas normales, en fait. Enfin, moi, je n'avais jamais vécu ça. Je n'avais jamais entendu de telles histoires. J'habite à Lyon. J'ai jamais vécu à Vaux-en-Velin. J'y travaille. Les gens pensent que j'y habite, mais en fait, je n'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu de problème relationnel avec la police. Ce que j'entendais lors des entretiens, ce que je lisais, mais je me dis, mais qu'est-ce que j'avais devant les yeux, quoi, ou dans les oreilles? Pas possible. C'est pas des choses qui se racontent, en fait. Ça se raconte pas parce qu'il n'y a pas besoin de le raconter, puisque c'est normal.
Du coup, ma question, c'est que vous avez dit qu'une des objectifs, c'était aussi de changer le quotidien. Est-ce que vous avez déjà des exemples un petit peu concrets de choses justement qui ont changé au quotidien dans le quartier? J'imagine déjà le fait qu'il y ait les soirées débats, qu'il y ait les temps de rencontre, c'est déjà un changement en soi. Mais est-ce qu'il y a d'autres petits détails, petits exemples qui sont déjà concrets?
Alors, on a repris l'exemple des soirées débat, mais peut-être juste après le tour de questions, on va faire un petit point sur la conférence citoyenne de consensus qu'on n'a pas pour l'instant discuté. La difficulté justement, c'est que nous, on ne peut pas changer à nous seuls le quotidien. En fait, il faut une coopération avec les pouvoirs publics pour pouvoir instituer justement ce changement à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville. Et nous, c'est pas fort, enfin, c'est pas faute d'avoir essayé d'avoir à travers la conférence citoyenne de consensus et après qu'on n'ait pas eu forcément que nos propositions n'aient pas forcément été reprises par les pouvoirs publics, on a essayé à nous à notre échelle d'appliquer les propositions une par une. Et on a quelques exemples comme la sensibilisation des jeunes. On est allé dans les collèges pour aller discuter des relations police-population. On a fait du coup plusieurs actions comme celle-ci. On a emmené des collégiens de la ville de Vemblin visiter une caserne de gendarmerie. Et ça, par exemple, ces collégiens-là, ils ont eu une vision assez différente qu'ils pouvaient avoir de la police. Et qui par la suite, eux aussi, qui voulaient s'engager dans la publicité, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a recruté la nouvelle cohorte, la deuxième cohorte de publicité.
On a fait des classes aussi à Paris, à
Oui,
l'UNESCO, une masterclass de
le
l'UNESCO sur
masterclass
le
de
racisme.
l'UNESCO sur le racisme.
Bref, il y a un
Enfin,
travail de sensibilisation.
c'est ça.
Moi, je dirais qu'il y a quand même, parce que là, tu dis ce qui ne change pas, moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui
Oui.
changent. Et pour moi, il y a deux avancées intéressantes. C'est le changement de regard des médias sur les jeunes. De Vaulx-en-Velin. Jusque-là, quand il se passait un événement, était interrogé la maire, la commissaire, éventuellement quelqu'un de la préfecture. Enfin, un événement, par exemple, émeute ou des voitures qui brûlent. Aujourd'hui, ça devient normal d'interroger les jeunes parce qu'ils ont des interlocuteurs qui sont capables d'exprimer voilà, pourquoi ça s'est passé. Donc ça, c'est quand même faire entendre la voix des jeunes, c'est quand même pas rien. Et puis, sur les conférences citoyennes de consensus dont on parlera, j'imagine, tout à l'heure, et ben, ça a été repris par des équipes municipales. Et début juillet, là, à Villeurbanne, ils organisent une conférence citoyenne de consensus sur le modèle de celle qu'on a organisée à Vaulx-en-Velin. Sauf que là, c'est organisé par la mairie. Il y a des citoyens profanes qui vont venir échanger et confronter leur point de vue avec des professionnels de la tranquillité publique. C'est organisé par la mairie et donc voilà, il y a des engagements de suite. Il y a des engagements à ce que ce travail de croisement des savoirs, il porte ses fruits après et il nourrisse l'action publique. Donc il y a quand même aussi cette circulation du modèle et des expérimentations qu'on a pu faire, qui est intéressante.
J'ai une question sur les voyages internationaux. Vous avez parlé de Montréal à Londres. Qu'est-ce que vous avez retiré plus précisément? Et dans la foulée, je vois parce que finalement on parle beaucoup des jeunes, mais on n'a pas beaucoup la police, on n'a pas de policiers. Vous avez beaucoup appris là-bas. Qu'est-ce qu'a appris la police?
Qu'est-ce qu'a appris la police
en France de notre projet?
Bon, moi, je ne vais pas intervenir pour la police. Je ne peux pas me permettre d'intervenir à la place de la police. Mais je peux vous dire l'intérêt des séjours d'études. C'est ça la question. Hein.
Londres en particulier, parce qu'on a parlé de
Montréal. Oui,
donc,
Londres.
Ouais. En fait, les séjours d'études visaient à compléter la formation et l'ouverture du champ des possibles. Il y a des bonnes pratiques ailleurs. Allons les voir. Allons voir. En ayant conscience que les fonctionnements de la police à Londres et à Montréal sont différents de ceux en France. On l'a appris dans le cadre des séminaires. Eux, c'est des polices municipales, puisque nous, on était sur la police nationale. Nous, en France, l'organisation, c'est une police nationale avec un ministère de l'Intérieur, etc. Cependant, la manière dont ils considèrent le pouvoir des citoyens sur les contrôles qu'ils peuvent. Comment est-ce qu'ils associent les citoyens aux formes de contrôle? Dans l'intérêt même de la police, ça nous intéressait, ça. Ça nous intéressait. C'est ce type de bonne pratique qu'on est allé chercher, en fait. Et puis, ça permettait aussi aux jeunes, non seulement de compléter leur formation, mais aussi de se dire, en fait, il y a des tas de choses qui sont possibles. C'est-à-dire qu'on a un format, un schéma en France qui nous empêche, quand on est un citoyen profane, lambda, d'imaginer des trucs possibles, mais parce qu'on n'en a pas conscience, on n'en a pas connaissance. Donc là, c'était ça aussi, c'était le but, en fait, de ces séjours d'études. Donc il y avait des tas de réunions, enfin, ils avaient un programme assez serré, où ils étaient tout le temps en relation avec des interlocuteurs du champ de la police, du champ un peu politique, avec des étudiants, avec des chercheurs là-bas qui avaient bossé aussi.
Sur ce qu'a appris la police, du coup, ou enfin, peut-être
sur
Londres aussi.
Oui, sur Londres. Vas-y, parce que
sur ce qu'a appris la police, oui, je pense qu'il faudrait poser la question à des policiers. J'ai ma petite idée, mais...
Peut-être si. La gendarmerie, par exemple, Migennes. Donc, ce sont des gendarmes de Migennes qui sont venus à la conférence de consensus qu'on avait invitée, et qui ont mis en place une conférence, la première en France, initiée par une gendarmerie. Et non seulement ils mettent en place une conférence de consensus, donc citoyenne, et ils consultent les citoyens, mais ils s'engagent en plus, au bout d'un an, à évaluer l'impact des recommandations qui ont été votées. C'est quand même incroyable. C'est bien. Enfin, je veux dire, nous, on est partisans de voir aussi la bouteille à moitié pleine plutôt que à moitié vide.
Super, merci. Ouais.
Oui, je suis Claire Rousseau, je suis chercheure et consultante et j'accompagne notamment les projets de recherche participative. Et je suis très sensible à la question du don et du contre-don. Et je voulais savoir, du côté du centre social, vous avez parlé de contrepartie en nature et on voit bien qu'il y a des choses qui ont été faites avec les voyages d'études. Du gain en termes d'apprentissage vis-à-vis des jeunes. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la contrepartie financière à un moment ou à un autre? Et puis du côté du chercheur, est-ce que vous avez exploré des voies autour du partage du droit d'auteur quand vous avez publié ou des actions de médiation et de valorisation scientifique dans lesquelles étaient impliqués les jeunes?
Alors, sur les droits d'auteur, en même temps, c'est pas non plus une fortune. Hein.
Je ne parle pas forcément du droit d'auteur, de la rétribution.
Alors, l'idée, ça a été de dire...
La citation en termes de droit d'auteur.
Alors, quand les articles... certains articles sont écrits en collaboration, d'autres tout seuls. En tout cas, la valorisation, elle est la plupart du temps conjointe. Ce n'est pas toujours facile d'emmener à des colloques, d'introduire dans des colloques des gens qui sont vus comme des profanes. Et ça leur a quand même permis de voyager tout autour de la planète, de communiquer à Istanbul, à Montréal. Donc la valorisation est conjointe. La question de la rétribution financière, on se l'est effectivement posé. Moi, je suis dans plusieurs recherches participatives. Les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Dans une recherche avec Marie-Hélène Baquet, les jeunes ont été rémunérés. C'était une manière pour eux de ne pas être considérés simplement comme des objets de recherche. Ils participaient à des séminaires. On a considéré que c'était un travail, que c'était une manière de valoriser. En même temps, ça ne résout pas tous les problèmes. Et puis, ce n'est pas non plus facile, c'est pas non plus possible dans toutes les structures. On avait travaillé avec 10, dans 10 villes, avec 10 organismes jeunesse de statuts différents. Et pour certaines associations, ce n'était pas possible parce que ils sont dans un rapport où ils font payer leurs adhérents. Et du coup, là, c'était une inversion trop complexe. Ça allait complètement à l'encontre de leur principe. Et du coup, il a été décidé d'avoir une rémunération collective. Donc, au lieu d'avoir chacun qui avait, mettons, 300 euros, la rémunération était collectivisée et servait à réaliser un projet collectif. Bon, ça a été là aussi beaucoup des séjours d'études. Donc, on peut considérer qu'il y a eu cette collectivisation aussi dans le cas de Policité et que ça fait partie des rétributions ou du contre-don que de s'engager à ce que tout le monde bénéficie des produits de la recherche ou tire les bénéfices de la recherche et puisse se déplacer, qu'il n'y ait pas des gens qui soient coincés dans un territoire et les autres qui circulent et qui vont parler et s'exprimer au nom de tout le monde.
Peut-être parce que Anaïk doit nous quitter, donc peut-être, voilà, comme il est 20h, si t'es bien avec nous, tant mieux.
C'est qu'il y a du monde dehors.
Voilà, puis on va prendre d'autres questions.
Du coup, j'avais une question sur l'aspect recherche.
Si, je peux répondre et après je cours.
Non, il n'y a pas de souci.
J'ai amené des tongs, du coup, ça tombe bien.
Est-ce que la seule réponse, c'est d'impliquer les personnes et qu'elles deviennent à leur tour chercheuses? Parce que du coup, moi, je suis confrontée aussi à ça. Je suis étudiante avec la politique des sciences. Et j'ai l'impression que justement, pour les gens qui connaissent mal la recherche, de l'expliciter, ça ne suffit pas. Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe? Et si oui, du coup, juste aussi une question en termes de médiation, parce que moi j'ai l'impression d'être confrontée à un spectre où en fait il y a soit une défiance envers les institutions publiques qui est très forte, mais parce qu'il y a un avis politique et social, et plus il y a un avis sur des questions politiques et sociales fortes, plus il y a de la défiance, donc c'est compliqué d'impliquer les personnes. Et sur l'autre côté du spectre, moins les personnes ont des avis politiques et sociaux, plus c'est compliqué, puisque tout simplement elles n'ont pas envie de participer. Et dans les deux cas, bah, la participation n'est pas du tout la même. Donc, comment on arrive à dépasser ça?
En fait, la réponse, c'est Samia qui l'a. Hein. Parce que tout ce travail de mobilisation et de conscientisation, c'est toi qui l'as fait.
Et sur la question de l'éthique et de sortir de la clandestinité, et peut-être du coup aussi de la sensation d'instrumentalisation, est-ce que toi, j'imagine que tu t'es posé ces questions-là, et comment tu contournes en fait ce problème-là, quoi?
Il nous l'a été posé.
Oui, c'est une question qui est toujours ouverte. Ouais. J'ai pas de réponse. Il faudrait qu'on puisse discuter plus de votre contexte de recherche. Mais on peut échanger.
Peut-être Samia, du coup, sur l'autre question. Et puis merci à Anaïk.
Désolée.
Désolée.
Je ne sais pas, mais.
Pas gérer le timing là. Merci beaucoup en tout cas. Samia, du coup, peut-être sur cette question-là de la médiation, c'est vrai que dans ce projet-là, il n'y a pas une personne désignée médiatrice entre professionnels, chercheurs et citoyens. Vous faites vous-même votre médiation. Est-ce qu'il y a des moments où ça a paru manquer? Est-ce que. Ou pas? C'est plutôt toi qui as joué ce rôle, du coup, peut-être?
Moi, je pense que oui, j'ai complètement joué ce rôle-là. C'est pas simple, hein, pour un chercheur d'arriver sur un territoire et d'annoncer qu'il fait une recherche avec toutes les représentations dont on a parlé, surtout quand il s'agit de questions assez tendues, d'enjeux assez tendus. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait une introduction, hein, une sorte de médiateur qui va introduire le chercheur sur le territoire. Et puis, il faut être aussi très clair sur l'intérêt des uns et des autres, quoi. Il faut pas raconter des cracks aux gens. Il faut être clair, il faut être vraiment honnête, quoi, en fait. Et si on arrive à croiser les intérêts, eh bien, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire que les personnes qui arrivent, surtout si elles ont un travail de recherche à mener, justement, elles puissent être introduites par mais pas forcément des professionnels, hein. Enfin, on a là maintenant, enfin, c'est plutôt les leaders qui introduisent. On a un jeune là qui venait pour une recherche. C'est les leaders qui l'ont accompagné, qui ont fait le tour des quartiers, qui lui ont présenté d'autres jeunes, bon, qui l'ont introduit. Après, il fait son truc, mais la présentation, elle est claire, elle est honnête, elle est franche. On sait qui il est, on sait pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire. Et dans quel intérêt? Après, les jeunes s'y inscrivent, ils s'y inscrivent, ils s'y inscrivent pas, ils s'y inscrivent pas. Enfin, les jeunes ou les gens, quoi. Ouais. Moi, je pense que ça doit pas être simple pour vous, hein, d'aller quelque part et de dire, j'ai besoin de votre avis parce que je suis en train de mener un travail d'étude. Ouais, et alors? Et moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner là-dedans? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de tes histoires? Tu vas régler, toi, mon problème de logement, mon problème de fin de mois difficile, mon problème de... Je sais que c'est un travail qui est difficile, hein, et vous ne pouvez pas faire sans ce contact-là. C'est pour ça que je trouve l'idée de la recherche action participative bon, super intéressante. Parce que là, il y a vraiment un croisement des intérêts, quoi. Les gamins ont beaucoup... Enfin, les gamins, c'est des adultes aujourd'hui. La nouvelle cohorte, ils sont encore jeunes. Mais les jeunes ont beaucoup donné, mais beaucoup reçu. Et moi également, j'ai donné, mais j'ai aussi énormément reçu. Même en termes de formation, enfin, je veux dire...
D'où l'idée de la boutique des sciences, de travailler main dans la main avec des associations, et du coup, qui sont censées, voilà, enfin, qui peuvent aussi faciliter ce dialogue-là. Bon, dans le cas direct, c'est un petit peu compliqué. Peut-être une autre question, est là-haut.
J'avais une question, je voulais savoir si des jeunes filles avaient participé au projet, et si ça avait mis en évidence les questions de genre, des différences de discrimination, et puis peut-être un travail, du coup, des actions différentes au sein du projet.
Moi, si je peux répondre. Ouais. Oui, il y avait du coup des adolescentes comme nous. Enfin, on avait comme nous qu'on était. Enfin, il y avait des adolescents et adolescentes dans le projet initialement. Et on va dire que, et c'est le constat d'ailleurs de notre recherche, les femmes et les filles sont moins, on va dire, sujets. À confronter la police. Et du coup, la police, d'ailleurs, dans leur travail quotidien, ne vont pas directement à la rencontre de groupes de filles ou quoi que ce soit, mais ils vont voir les jeunes hommes, les jeunes qui, eux, parfois, restent entre eux ou quoi que ce soit. Et c'est d'ailleurs le constat qui a été fait lors des recherches. Et les filles qu'on a sondées, les jeunes filles, les jeunes femmes, ont, eu l'image de leurs frères qui racontaient des anecdotes ou le fait d'être observatrice d'une scène ou quoi que ce soit. Mais généralement, en tout cas moi personnellement, j'ai pas rencontré de...
Ouais, elles sont peu nombreuses à être victimes directement. Très mais peu, la ouais. question, c'était aussi, est-ce que dans le cadre du projet, il y a la question du genre qui s'est peut-être ouais. révélée? Est-ce qu'elles participent au projet? D'abord, la première cohorte, c'était 60% de garçons, 40% de filles. La seconde cohorte, il y a plus de filles. C'est à peu près 60% de filles, 40% de garçons. Donc, le sujet intéresse les filles. La démarche de projet intéresse les filles. Elles ont besoin d'être impliquées, elles ont envie, en fait, je n'aime pas parler en termes de besoin, elles ont envie de s'impliquer dans la démarche de projet. Après, évidemment, ça révèle, mais comme dans tous les groupes, ça révèle des tas de problématiques, de relations parfois très agréables, parfois plutôt difficiles, de rapports de genre. Et c'est l'occasion qui est donnée aussi aux professionnels pour justement aller sur ces questions-là. En tout cas, dans les démarches de projet que j'ai mis en place, bon, les gamins savent que moi, je suis une féministe déclarée. Donc, c'est simple, c'est clair dès le départ. Et d'ailleurs, parfois, ils pensent que je suis très injuste. Je fais de la discrimination, même. Voilà, traitement inégalitaire. Bon. Mais comme je me dis que, voilà, elles subissent déjà pas mal, hein, donc c'est pas grave si à ce moment-là, c'est eux qui subissent. Donc, ils savent dès le départ. Et on se rend compte, en fait, que c'est quelque chose pour eux qui est... Quand les choses, elles sont clairement énoncées, ça se passe super bien, en fait. Il n'y a pas eu de problème de place ou de pouvoir dans le cadre du projet et dans le rôle des leaders. Il y a des filles qui sont leaders. Alors, j'aime pas le mot « leaduse ». Ça ne veut rien dire. Mais au féminin, il y a des leaders avec un « e », alors, à la fin. Ben, voilà. Et elles sont...
Ça se dit.
Comment ?
Leaduse.
Les deux, ça se dit, ben voilà, les deux. Ben, je trouve que c'est moche. Et elles sont très impliquées, elles prennent la parole. Pardon ? Exactement, on en a une qui est particulièrement investie, Camélia, qui a fait un TEDx, qui a participé à un TEDx, à l'ENTPE d'ailleurs, voilà, qui a participé à la formation d'ailleurs, qui était une des leaders qui encadrait la formation du panel citoyen pour la ville de Villeurbanne.
Ça arrive.
Non,
allez-y.
Je Charles Camora, je suis allié à ATD, Agir tous pour la dignité. Peut-être, je voulais faire quelques remarques un peu au niveau de la méthode, en revenant un peu sur l'objet même de la recherche action. Je suis consultant et j'ai été chef de projet là ici sur Loing-de-l'Ain il y a quelques années en arrière sur le Mas du Taureau, donc j'ai eu l'occasion là, de travailler un peu sur cet objet-là, enfin, pas de la même manière, en tout cas avec le commissariat de police et les policiers qui étaient en poste. Et en même temps, je ne vous dis pas ça pour raconter ma vie, hein, simplement c'est pour expliquer après. J'avais contribué à la formation des commissaires de police à l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-Mont-d'Or sur comment mettre un peu en œuvre la police de proximité. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de cette période-là, police de proximité qui a été remise au placard par Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur. Okay. C'était pour dire deux choses. La première, par rapport à ça, c'est qu'il y a à l'École nationale de police, il y a des éléments, j'espère qu'ils sont encore dans leurs archives, c'est quand même pas très 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 vieux, de ce qu'on appelait la doctrine au niveau de la police de proximité, c'est-à-dire qui reprend un certain nombre de postures, un certain nombre de méthodes, un certain nombre d'actions, que je ne rentre pas dans les détails. Il existe un savoir là, une espèce de capital qui peut être réutilisé, j'espère, à terme, sur comment on aborde un peu, comment on transforme le métier de policier qui se saute dessus à celui d'être au plus près des citoyens, et notamment des jeunes, et notamment des jeunes à la nuit. Il y avait tout un boulot qu'on avait fait avec Sébastien Rocher, là, j'ai vu là, tout à l'heure dans le clip. C'était donc pour dire, premièrement, ça. Deuxièmement, vous avez évoqué tout à l'heure aussi dans la méthode la question des représentations. On avait fait, alors, c'est pas pour dire ce qu'on a fait, c'est pour illustrer, on avait abordé cette question des représentations d'une manière presque similaire à ce que vous avez évoqué là, avec une petite différence, c'est que on avait travaillé les représentations que se faisaient les policiers de Loing-de-l'Ain par rapport, notamment, j'étais sur le Mas du Taureau, donc parler plutôt du Mas du Taureau, en fait, ça, c'est bien copain avec la Capinière, il n'y a pas de problème là-dessus. Les représentations que se faisaient les policiers d'une part, les représentations que se faisaient les jeunes d'autre part, les représentations que se faisaient les parents d'autre part. Et la différence avec ce que vous avez fait, je ne dis pas que c'est forcément mieux, hein, mais c'était d'abord travaillé séparément avec ces trois familles d'acteurs, ces trois pères, les pères, P-A-I-R-S, et ensuite on avait rapproché ce travail de représentation pour se dire, ok, on a ça, on fait quoi? Et je dis ça pour finir sur... je suis un peu étonné, mais c'est pas de, je ne connais pas mal, hein, il n'y a pas de malice dans mes propos, loin de là, au contraire. J'ai bien aimé ce que vous avez raconté. Mais je suis un peu étonné, on est sur une recherche action, et je n'ai pas senti l'action derrière, c'est-à-dire, j'ai senti l'action, tout le travail qui a été fait avec les groupes, au contraire. Mais après ce travail-là, bon, il y a une question qui a été posée par une personne là tout à l'heure, mais ma question, je finis là-dessus, c'est... aujourd'hui, est-ce que, à la suite un peu de ce travail-là, est-ce que vous sentez un peu l'ouverture, le démarrage, l'éclosion un peu d'une stratégie ou d'une démarche avec la police, notamment avec le commissariat de police de Loing-de-l'Ain, en particulier, peut-être avec d'autres partenaires, pour changer un peu les choses? Et je ne l'ai pas senti, ça. Vous avez juste évoqué des éléments par rapport à ce que vous avez pu, vous les jeunes, je dis tant mieux, acquérir, découvrir, développer. Mais je suis un peu méticuleux sur les termes. Recherche-action, ce n'est pas recherche. C'est recherche-action, excusez-moi de répéter. Mmh. C'est-à-dire, derrière, il y a la... sur quoi on débouche par rapport à ça? Alors, est-ce que l'intention, c'était peut-être de ne pas forcément déboucher tout de suite sur quelque chose? Ok. Mais si c'était le cas, comment on peut prolonger un peu ce travail, à la fois pour mesurer un peu les impacts que cela peut avoir à terme, peut-être à long terme, sur les effectifs de police de Loing-de-l'Ain notamment, et l'enseignement qui peut être tiré dans les autres, en lien avec les centres de formation de la police. Voilà. J'étais un peu là-dessus. Voilà. Je voulais juste la partager, mais en la respectant, je dirais, je l'aurais dit, le travail, il n'y a pas de problème.
Ça va nous permettre d'aborder les limites.
Est-ce que je peux profiter de, pour parler de la conférence citoyenne de consensus et des, par la suite des limites? Donc, j'essaie de faire vite.
On se dit qu'on essaye de finir quand même en 10 minutes pour c'est faire ça. 20h30.
Allez.
Pour
les actions, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas appuyé là-dessus, mais nous, au sortir du travail de recherche, une fois qu'on a fini les sur études, on s'est dit comment apporter ce modèle, comment passer réellement à l'action. Et pour passer à l'action, il faut réfléchir à des propositions d'action, quoi. Et on a organisé, ce qui était inédit, et pour le coup, c'était une action, une conférence citoyenne de consensus sur le modèle de la conférence de consensus qui existait notamment dans le monde de la santé, dans le milieu de la santé. Et du coup, on a pris ce modèle-là pour la première fois du coup en France, mettre autour d'une table, dans un amphi un peu plus grand que celui-ci, mais quasiment la même taille, on a mis des citoyens de la ville de Vanvelin, des chercheurs, des chercheuses, des universitaires, qui ont travaillé sur cette thématique-là, des professionnels, des policiers, des commissaires, des gendarmes, des gradés du ministère de l'Intérieur. Et on a fait venir également des experts, entre guillemets, mais des personnes qu'on avait rencontrées, du coup, dans les villes qu'on avait séjourné pour Montréal, notamment. On a fait venir un lieutenant-colonel du service de police de la ville de Montréal. Et tous ensemble, on a pendant 2 jours réfléchi à des propositions. Et la thématique de cette conférence était comment passer de la confrontation à la confiance. Au bout de 2 jours, à travers des échanges, à travers des formations, on a formé les citoyens juste avant, et à travers des ateliers, on a formulé des propositions très concrètes que vous pouvez voir à la fin de la BD. 12 propositions très concrètes qu'on a votées tous ensemble et qui ont fait consensus. Et ces propositions-là, nous, on les a transmises au ministère de l'Intérieur, qui, lui, par son retour, nous a dit qu'il prenait en compte et qu'il nous a même invité, place Beauvau, à discuter et qu'il est venu nous dire que c'était super bien ce que vous faites maintenant. Est-ce que vous pouvez l'appliquer sur Vanvelin sans forcément, encore du personnel, sans nous donner aucun moyen et aucun espoir de voir ces propositions mises en place. Nous, à notre échelle, et je comprends, et même nous, on a ce sentiment-là, que notre travail, il a abouti à quelque chose. Il a abouti à quelque chose de grandiose. Mais nous ne sommes pas les pouvoirs publics. Nous, on est simplement des jeunes qui veulent les interpeller, justement. Et ces propositions, on les a faites, on les a formulées, on les a essayées, à notre échelle, de les mettre en place. Mais malheureusement, en France, la sécurité, c'est un pouvoir, comme on aime le dire, régalien, et il n'est à aucun moment participatif. La sécurité, c'est d'ailleurs un des seuls pays européens, et même, oui, européens, où la sécurité est vraiment très, très dépendante d'un ministère régalien, et à aucun moment, elle est participative. Et justement, nous, ces propositions, on les a formulées, et on fait tout pour qu'elles soient remises en place, enfin, elles soient mise en place concrètement, et on le fait auprès des collectivités désormais. On le fait auprès des villes qui s'en emparent, et il y en a plusieurs. Il y a eu Villeurbanne, il y a un dialogue en ce moment avec la ville de Lyon aussi, il y a d'autres villes qui veulent s'en emparer, il y a la gendarmerie de Migennes qui a elle aussi fait ce travail-là, et là pour moi c'est vraiment d'abord quelque chose qui a abouti. Pour moi la proposition la plus importante, c'est rendre la politique de sécurité plus participative et changer le système même du ministère de l'Intérieur, qui est totalement voué à l'échec. Et justement, ça a permis justement de se conscientiser nous-mêmes, d'avoir cette vision-là de l'échec des politiques publiques, des politiques notamment de sécurité, et comment finalement on peut les modifier. Et l'action, nous, en tout cas, on a tout fait pour. Et maintenant, j'ai envie de dire, c'est interpellons nous, les pouvoirs publics, pour que ça change. Et moi, j'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut s'engager, les interpeller, leur dire, on a eu des mouvements, on reprend l'exemple de Black Lives Matter, on reprend plein d'exemples, plein de manifestations, on a parfois des manifestations contre la loi sécurité globale, etc. nous, on se positionne, on a une position très neutre pour interpeller le pouvoir public en disant, voilà, on a ces ressentis, on construit tous ensemble à des propositions et il faut que ça fasse consensus. Et justement, maintenant, ce n'est pas nous qui sommes contre le changement, au contraire, c'est vraiment cette institution même du ministère de l'Intérieur qui est, a une position assez... C'est un avis personnel, hein. faut pas le prendre pour le compte de Policité. Mais voilà, nous, on essaye, on le fait toujours, on discute, on fait des actions dans les quartiers, on va sensibiliser les jeunes, on recrute pour que les personnes aient cette expérience-là. Et justement, on essaye d'interpeller et on le fera toujours. Et on fait le nécessaire. Et le problème, voilà, je pense qu'on a essayé de formuler le problème, c'est vraiment comment on peut discuter et coopérer avec les pouvoirs publics. Et ça n'a pas toujours été facile.
Eh bien, merci beaucoup à Anaïk Curen, Samia Ben-Sherifa et Abdallah Slimani pour ces éclairages et cette présentation brillante du collectif Policité. Rendez-vous sur le site de la boutique des sciences pour réécouter cette séance en podcast et puis les autres séances de l'année. Et puis, moi, pour la boutique des sciences, je vous remercie de cette année de séminaire et puis je vous donne rendez-vous peut-être pour de nouveaux échanges l'année prochaine sous d'autres formes ou d'autres auspices. Merci à vous et bonne soirée.